Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
C'était le 20 mai 1979. Mireille Glédine, 21 ans, surnommée Mimi par ses proches, est retrouvée quasiment nue dans un bois sur les hauteurs de Toulon, titulée par un proche, par un rôdeur ou par un tueur en série.
Bonjour, Mireille Glédine avait 21 ans. Une jeune femme qui terminait ses études à Toulon, un soir du printemps 1979, elle a disparu. Son corps sera retrouvé le lendemain fracassé et dénudé dans un décor de garrigues et de caillasses. On va alors se demander qui a pu s'en prendre à cette étudiante tout aussi amicale que sérieuse. Mais les enquêteurs vont cheminer dans des impasses. Le dossier va rapidement rejoindre le registre des affaires non élucidées. Les indices, les pistes, pourtant, ne manquaient pas. Dans ce même coin du Var, proche du célèbre circuit du Castellet, à la même époque, d'autres femmes, trois ou quatre, ont été assassinées, avec parfois le même mode opératoire. À l'époque, les enquêteurs avaient noté ces étonnantes coïncidences, mais sans vraiment s'y attarder. Plus de 40 ans après, la famille de Mireille Glédine espère toujours devoir éclater la vérité. Pourquoi l'étudiante a-t-elle été tuée? La justice va-t-elle se replonger dans ce dossier trop tôt refermé? Un tueur en série sévissait-il dans ce coin? Question posée aujourd'hui à nos invités, dont la mère de la victime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, une affaire classée trop vite. La mort de Mireille Glédine au printemps 1979 près de Toulon. L'étudiante était tout aussi sérieuse que discrète. On va retrouver son corps martyrisé dans un coin reculé. Qui donc a pu s'en prendre à elle ? Dimanche 20 mai 1979, aux alentours de 14h45, un couple de Marseillais qui marche en bordure du chemin départemental 402 au Bossé, à une vingtaine de kilomètres de Toulon, bifurque dans un chemin caillouteux, un sentier de promenade qui s'enfonce au milieu des pins et des genêts. Après quelques minutes de marche, le couple stoppe net, sous leurs yeux, le corps d'une jeune femme entièrement nue. Elle ne porte que ses chaussettes blanches à motif rose, des baskets usagées, un collier fantaisie et un bracelet en plastique mauve. L'inconnu, coiffé avec des nattes, gît sur le ventre, la tête inclinée vers la gauche. Les gendarmes, alertés, bouclent ce coin de forêt qui longe le circuit du Castellet Paul Ricard, une course auto. Les 24 heures du Castellet s'y déroulent justement ce jour-là. 16h15, le docteur du Bossé effectue les premières constatations. Il indique que le corps, qui porte des aiguilles de pin et des morceaux d'écorce dans le dos, a été traîné. Dans son rapport, le médecin note la poitrine, le ventre et jusqu'aux pieds. Le corps est recouvert de sang. L'auteur s'est acharné, particulièrement au visage et à la tête. La jeune femme s'est défendue. Les légistes établissent effectivement que le crâne a éclaté. Le ou les meurtriers ne se sont sans doute servis de grosses pierres. Trois d'entre elles, découvertes ensanglantées sur place, portent les cheveux de la victime. Bien que le corps soit dénudé, le rapport d'autopsie ne fait pas état de traces de viol. La jeune femme aurait été tuée ce dimanche matin entre 9h30 et 13h30. Lundi 21 mai, le juge d'instruction de Toulon, Robert Cordas, confie conjointement les investigations à la gendarmerie et à la police judiciaire de Toulon. La priorité est d'identifier la jeune morte du Bossé. La photo de ses quelques bijoux fantaisie est publiée le jour même dans la presse locale. Le lendemain, un autre cliché sinistre, celui de son visage photographié par les légistes à la morgue, s'affiche à la page des faits divers, accompagné du signalement de l'inconnu. 1m65, cheveux châtain foncé, ondulés, chaussures de pointure 37. Ce même jour, Marthe Vanny se rend au service des recherches de la police toulonnaise. Elle n'a plus de nouvelles de sa fille depuis 2 jours. Elle raconte que celle-ci n'est pas repassée à son studio dans le quartier toulonnais de Saint-Jean-du-Var depuis samedi. Elle est très inquiète. La maman n'a pas vu la photo dans le journal. 2 heures plus tard, à la morgue, elle reconnaît le corps de sa fille, Mireille Glédine, 21 ans. La morte du Bossé a désormais un nom. Mireille Glédine, un père instituteur pour enfants inadaptés qui travaille dans un hôpital de hier, une mère standardiste, était étudiante en gestion à l'IUT de la Garde, près de Toulon, en stage pour une semaine aux constructions navales à la Seyne-sur-Mer. La dernière fois qu'on l'a vue vivante, c'était le samedi 19 mai. Dans l'après-midi, elle est passée à la Seyne, chez son oncle et sa tante. Elle a passé du temps avec sa cousine, Carole, 14 ans, qui, malgré son jeune âge, et sa confidente. Les deux filles ont bavardé jusqu'au soir, elles ont cueilli des cerises. À 20h10, Mireille a quitté la villa. Elle voulait prendre l'autobus sans savoir qu'elle venait de rater le dernier. Plus personne ne l'a alors revue. Disparue hier, Mireille Glédine, à l'intersection des rues d'Onicard et du 4 septembre précisément. Aux enquêteurs de refaire tout le cheminement de l'étudiante et de savoir qui elle a pu rencontrer ce soir-là. On va voir tout cela évidemment dans la suite de l'heure du crime. L'enquête ne fait que démarrer et on va s'apercevoir eh bien, que Mireille n'est sans doute pas la première femme assassinée dans ce coin du Bossé. C'est extrêmement troublant. Alors ce qui interpelle tout de suite, évidemment, c'est cette scène de crime parce que le tueur s'est acharné. Bonjour Anna Cuxac.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du site internet Cosette. Vous êtes la cousine de Mireille Glédine et vous êtes l'auteur d'un article qui nous a interpellés, nous, ici à l'heure du crime, avec toute l'équipe de l'heure du crime. C'est un article que vous avez publié sur Cosette et qui s'appelle Cold Case, qui a tué ma cousine Mireille Glédine. Et effectivement, on ne connaît pas cette affaire, on ne la connaissait pas jusque-là, c'est vous qui l'a réveillée en quelque sorte, ce dossier. Pourquoi, juste un petit mot là-dessus, pourquoi vous aviez envie d'écrire sur votre cousine que vous n'avez pas connue ?
J'ai grandi en fait avec cette histoire de famille et j'ai dû j'ai tout le temps été intriguée évidemment par cette histoire mais je n'aurais jamais osé m'en emparer si ma tante ne me l'avait suggéré.
C'est ça.
Et elle l'a fait à la création du Paul Cold Case du parquet de Nanterre. Ça lui a donné espoir et son avocate lui a conseillé de médiatiser à nouveau cette affaire qui avait été complètement oublié.
Et vous avez bien fait parce qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a plein de choses troublantes dans ce dossier. On va les évoquer au fil de cette heure du crime. Alors Mireille, elle disparaît et puis on va la retrouver morte très rapidement dans ce coin du Bossé. Ce qu'on peut dire, Anna Cuxac, c'est que la scène de crime, elle est épouvantable parce qu'on s'est acharné tout simplement à coups de pierre, je crois, peut-être même à coups de bâton, on ne sait pas.
Tout à fait, le visage est assez méconnaissable et ça, je sais que ça a été une très grande épreuve, évidemment, pour ma tante. Lorsqu'elle a dû aller la reconnaître, elle était très très abîmée, ce qui prouvait effectivement qu'il y a eu un acharnement.
Elle est partie de chez ses cousins, comme ça, elle allait prendre l'autobus, il n'y avait plus d'autobus à cette heure-là. Elle est peut-être partie en stop, c'est ça ? C'est ce qu'on va se dire à ce moment-là. En tout cas, elle est partie avec quelqu'un.
C'est l'une des pistes. Néanmoins, lorsqu'on demande lorsque les policiers ont demandé à l'entourage à l'époque de ma cousine, il est apparu très clairement que ce n'est pas un risque celui de faire du stop et donc de monter dans la voiture d'un inconnu qu'aurait pu prendre ma cousine. Après, on ne sait pas, mais en tout cas, ce n'était pas dans son caractère.
C'était pas dans son caractère, effectivement, comme ça, de partir avec un inconnu ou bien d'aller avec n'importe qui. C'est vrai qu'elle est très sérieuse, Mireille. Dans ses études, on voit ce visage, hein. il faut la présenter un petit peu, Anna Cuxac, hein. C'est une jeune femme aux cheveux bruns, un visage mince qui est très rêveur, comme ça c'est une intellectuelle.
Oui, c'est vrai, elle est très belle, moi je ne l'ai jamais connue puisque je suis née 10 ans après son décès, mais lorsque je vois les photos, je la trouve très émouvante, effectivement. Et oui, elle est sérieuse, elle est passionnée et elle est aussi engagée puisqu'elle s'intéresse aux idées de gauche notamment et de façon assez ironique malheureusement les policiers vont retrouver lorsqu'ils vont fouiller sa chambre une coupure de presse s'insurgeant contre la peine de mort dans le cadre d'une affaire de meurtre de femme dans l'Oise et finalement c'est assez vertigineux de se rendre compte qu'elle avait ces convictions là.
Et effectivement, on est en 1979, la peine de mort, elle ne sera abrogée qu'en 1981. Donc effectivement, c'est un débat à l'époque qui agite beaucoup cette jeunesse. Bonjour Marthe Vanni.
Bonjour Monsieur Richard.
Merci, un très grand merci à vous d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime, parce que vous êtes la maman de Mireille Glédine. Et effectivement, depuis toutes ces années, depuis une quarantaine d'années, vous attendez la vérité dans ce dossier et vous l'espérez, cette vérité. Je vais vous reposer la question que j'ai posée à Anna Cuxac. Qui était Mireille ? C'est une jeune femme, on vient de le dire, qui a les pieds sur terre, pas du genre à faire n'importe quoi.
Oui, mais écoutez... Mireille, c'était une fille très jeune, mais quand même, elle avait des raisonnements d'adulte. Mmh. Elle pensait souvent à l'avenir, elle écoutait souvent les autres parler. Et on avait l'impression souvent que, comment dire, que le monde reposait sur ses épaules. Elle prenait tout à cœur. Voilà. Et là, quand elle est morte, elle était en stage dans une entreprise où elle s'occupait justement de faire des rapports sur les syndicats et sur les rapports des syndicats avec les employés de l'entreprise.
Anna Cuxac nous dit qu'elle n'avait pas l'habitude de faire du stop, c'est ça ?
Elle ne faisait pas de stop. Ça, j'en suis sûre, mais les conditions ont fait que ce soir-là, il est possible qu'elle ait été prise par une voiture, parce qu'elle avait vraisemblablement, elle avait manqué le dernier bus de la Seine-Toulon. Mmh. Donc, peut-être que quelqu'un s'est arrêté et lui a proposé de l'amener en voiture. Mmh. C'est le gros problème, parce que en règle générale, elle ne faisait pas de stop, mais là, ce n'est pas ce qui a pu se passer, c'est là que tout a été chamboulé.
Ce dont on est sûr, Marthe Vanni, c'est qu'elle n'a pas pris le bus.
Ça, elle ne l'a pas pris, c'est sûr, parce que le chauffeur du bus a été auditionné et il ne se souvient pas d'elle, alors qu'il avait vu les soirs de semaine précédente, il l'avait vu. Mais là, il a été auditionné et il était certain qu'il ne l'avait pas pris. Et le dernier bus est passé vraisemblablement à 20h05 à l'arrêt du bus. Et c'était le dernier bus.
Anna Cuxac, effectivement, on entend ce que dit votre tante, Marthe Vanni. C'est assez touchant, d'ailleurs. Hein. Elle a tous ses souvenirs qui sont encore en tête. Et effectivement, elle attend la vérité. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé, c'est que les légistes, tout de suite, ils disent qu'elle a été tuée le matin même. Qu'est-ce qu'elle aurait fait toute cette nuit, entre samedi et dimanche ? C'est une grande question. Si le légiste ne se trompe pas, attention.
Oui, tout à fait. Effectivement, personne n'a d'éléments sur ce qu'elle a pu faire, ce qui a pu se passer tout au long de cette nuit. Ce que l'on sait, c'est que le médecin légiste a aussi retrouvé dans son bol alimentaire des cerises à peine, enfin qui étaient
consommées, c'est ça.
Oui, tout à fait. Et donc l'interprétation de la police à ce moment-là, ça a été de dire que si elle avait été capable de manger ses cerises, c'est qu'elle était en compagnie de quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. Donc, c'est l'interprétation du moment. Après, ça reste ouvert parce qu'elle aurait pu aussi être forcée.
Bien sûr, c'est uniquement une interprétation, on est d'accord, on va d'ailleurs y revenir sur ce point crucial. Les enquêteurs se plongent dans la vie de la victime et s'interrogent sur d'autres victimes. Les policiers interrogent Carole Vanni, la cousine, toute dernière personne à avoir vu vivante l'étudiante. Cette dernière ne lui a pas fait part de soucis particuliers. Les filles ont parlé d'un garçon que Mireille avait rencontré et qu'elle surnommait le brigand, car c'était un petit voyou toulonnais. Elle avait cessé de le fréquenter car, disait-elle en plaisantant, elle aurait eu toute son éducation à refaire. Un autre témoin, Nicolas, un étudiant qui habite Sifour, confirme que Mireille avait bien rencontré ce mauvais garçon. 1m80, brun, entre 20 et 25 ans. Il était passé la voir à son appartement, mais il ne semblait pas y avoir d'histoire sentimentale entre eux. La piste des petits amis est suivie de près. Une semaine avant d'être tuée, Mireille avait en effet rompu avec Ali. Elle avait pourtant, semble-t-il, rendez-vous avec lui au soir de sa disparition. Ali aurait-il mal supporté cette rupture ? Il est placé en garde à vue, son domicile perquisitionné, mais son alibi pour le week-end des 19 et 20 mai est solide. Ali est mis hors de cause. Quant au dernier flirt en date de la victime, il n'était pas à Toulon au moment du drame. Il se trouvait en stage d'entreprise, dans le Jura. Dès la découverte du corps de Mireille Glédine, les policiers ont fait le rapprochement avec deux autres crimes de femmes commis dans ce même coin du Bossé. Le lundi 17 juillet 78, 10 mois avant la mort de l'étudiante, un CRS découvre le corps entièrement nu d'une femme au lieu-dit le Four à Chaux. Le cadavre est en état de décomposition avancée. Il s'agit d'une Toulonnaise de 24 ans, Dominique Peretti, mère d'une petite fille tuée de 3 coups de couteau. Les enquêteurs vont soupçonner un proxénète local qui connaissait la victime. Il sera inculpé quelques mois plus tard, mais sur de vagues présomptions, il ne cessera de démentir cette attaque. Samedi 10 mars 79, 2 mois avant la mort de Mireille Glédine, un deuxième corps est découvert dans le même secteur, dans la localité voisine du Castellet, à l'adresse sinistre du chemin du Charnier. Josiane Maria, 20 ans, a été retrouvée nue, le crâne défoncé, semble-t-il, avec une pierre. La tempe droite a été enfoncée, la clavicule et le nez ont été cassés. On s'est dit que cette scène de crime ressemblait beaucoup à celle de Mireille Glédine. Même violence aveugle et même type de jeune femme, confiera un enquêteur. L'autopsie révèle que Josiane Maria a eu des relations sexuelles peu avant sa mort. À l'époque, elle avait confié à des proches avoir fait la connaissance d'un jeune ingénieur stagiaire. Cet homme, qui pourrait être un témoin important, n'a jamais été retrouvé. Vendredi 25 mai 1979, Mireille Glédine est inhumée au cimetière toulonnais de Lagoubran après une cérémonie à l'église de Notre-Dame-des-Routes. Sous un soleil éclatant, des dizaines de personnes accompagnent le cercueil et réconfortent les parents brisés par le chagrin. Des policiers en civil observent les visages et les réactions des uns et des autres. Et si le meurtrier était dans la foule ? Mais la famille Glédine ne va pas obtenir de réponse immédiate à cette question. Une enquête qui n'avance pas malgré les dizaines de personnes entendues dans l'entourage de Mireille Glédine, parents, proches, étudiants. La liste est très longue et le mystère va persister. On va voir comment le scénario du crime va évoluer. Une quatrième victime sera effectivement dans quelques temps répertoriée. La première piste qui est suivie, c'est donc la piste étudiante. Anna Cuxac, vous connaissez bien cette affaire, vous êtes rédactrice en chef adjointe du site internet Cosette, et si vous la connaissez si bien cette affaire, c'est que c'est une affaire de famille. Vous êtes la cousine de Mireille Glédine et vous avez écrit un grand article qui a d'ailleurs réveillé la curiosité de l'équipe du L'Heure du Crime sur cette affaire. Les premiers suspects, entre guillemets, parce qu'il y a pas, il y a eu une garde à vue, certes, mais il n'y a pas beaucoup de persistance dans ces interrogations, ce sont les petits amis, hein, c'est ça. Mireille, elle avait, elle a 21 ans, elle connaissait du monde, il y a beaucoup d'étudiants qui sont interrogés à ce moment-là.
Oui, elle vit sa jeunesse à fond et de fait, effectivement, l'enquête s'intéresse à son entourage parce qu'elle fréquente énormément de monde, dont des hommes, mais effectivement, ces pistes aboutissent à chaque fois à des impasses.
C'est ça, on trouve pas.
Hein, sachant qu'on n'a pas retrouvé celui qu'elle appelle le petit truand.
Alors le petit truand, oui, alors c'est effectivement, parce que ça revient dans beaucoup de témoignages, hein, c'est ça.
Oui.
Cet homme, on le voit passer là. Oui, on sait qu'elle était avec quelqu'un, mais on ne sait pas trop qui.
Exactement. Et il n'a jamais pu être identifié, donc cela reste un mystère total.
Ce qui est étonnant, parce qu'à l'époque, je suppose que la police de Toulon, c'est une ville qui, à l'époque, je dis bien, est plutôt mal famée, qui n'a pas très bonne réputation, et je suppose qu'à l'époque, les policiers, ils auraient dû savoir ou pu savoir qui était ce garçon, si on l'avait peut-être vraiment cherché. Marthe Vanni, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, et encore merci. Vous êtes la maman de Mireille Glédine, vous vous battez pour la vérité, je ne cesserai de le répéter. Ben un mot justement, on en parle avec Anna Cuxac, un mot sur cet autre jeune homme, le petit brigand, le petit voyou comme l'appelait votre fille. Est-ce qu'on l'a recherché cet homme ?
Absolument pas, on n'en sait rien, je ne sais même pas si la police a fait une enquête sur lui, j'en sais rien. Moi j'ai eu les procès-verbaux, avec beaucoup de mal d'ailleurs, j'ai eu les procès-verbaux, mais personne n'évoque... Un petit truand. Bon, est-ce qu'elle l'a dit pour rire ? Je ne peux pas vous dire.
Oui, c'est ça. En fait, il n'y a peut-être pas eu de vérification très poussée. Anna Cuxac, parlons quand même des autres femmes tuées à cette époque. Hein, lorsque Mireille disparaît, il y a deux femmes qui sont retrouvées. Alors la première, Dominique Peretti, je vous l'accorde, le mode opératoire, il est différent. Elle est tuée de coups de couteau, on va soupçonner qu'il y a une histoire de proxénétisme derrière. On peut peut-être la mettre entre parenthèses. Mais la suivante, Josiane Maria, là c'est beaucoup plus troublant.
C'est frappant, oui. Donc Josiane Maria est assassinée 2 mois auparavant, Mireille, et son corps est retrouvé à très grande proximité. Donc effectivement, c'est très interpellant. Et à l'époque, on n'emploie pas encore le terme de tueur en série.
Non, ça n'existe pas.
Donc voilà, la presse commence à relayer deux thèses possibles pour le meurtre, l'assassinat de ma cousine, à savoir la piste intime et la piste d'un maniaque. Donc c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, ces hommes qui tuent successivement plusieurs femmes. Et effectivement, c'est la piste... cette piste de maniaque qui interpelle avec le meurtre de Josiane Maria.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, mais là, encore une fois, les vérifications, elles ne sont pas très poussées, elles ne vont pas très loin. C'est le moins qu'on puisse dire.
Non, alors est-ce que c'est parce qu'à l'époque, on ne sait pas systématiser et mettre en relation autant ces affaires ?
Bien sûr. On n'a pas ce réflexe.
Voilà, ça vient des États-Unis, après tout ce savoir-faire.
Oui, bien sûr, ça viendra, mais à l'époque, c'est vrai que...
Elle a peut-être pâti, Josiane autant que Mireille, ont peut-être pâti de ce manque de mise en perspective, oui.
Et de lucidité, effectivement, même s'ils s'interrogent, les policiers à l'époque, mais ça ne va pas très loin. Bonjour, maître Isabelle Bernier-Hervois.
Bonjour Monsieur Richard.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors Maître Bernier-Hervois, vous êtes avocate au barreau de Toulon et vous êtes dans cette affaire l'avocate de Marthe Vanni, qui est également notre invitée aujourd'hui. C'est la maman de Mireille Glédine. Vous la défendez et vous essayez de faire avancer ce dossier. Est-ce qu'un lien à l'époque a été établi avec les deux précédents meurtres ?
Ça c'est vraiment la grande interrogation. Nous, dans le dossier en notre possession, il n'y a aucun élément qui nous permet de dire que cette relation a pu être faite, quand bien même voilà, quelqu'un se soit posé la question. Voilà, on n'a pas de réponse, je ne sais pas. C'est vrai que le meurtre le plus proche, c'était celui de Josiane Maria, qui était à peu près du même âge que Mireille Glédine, qui a été retrouvée à peu près au même endroit et dans les mêmes circonstances, on va dire.
Oui, mais Maître Bernier-Hervois, c'est vrai qu'avec le recul, ça paraît fou que ce lien n'ait pas été établi.
Ben, ça paraît fou, d'autant que la presse l'avait fait, elle, le lien. Parce que nous, on a des articles de presse de l'époque qui avaient été conservés par Madame Vanni, qui posaient la question. Donc, le journal local, hier matin, ils se sont posé la question à plusieurs reprises. Il y a eu des articles dans ce sens-là, de fait, et malheureusement, j'ai l'impression que le juge d'instruction de l'époque n'a pas fait le lien.
Juste une dernière question, il y a une voiture qui a été retrouvée sur la scène de crime, qui est une voiture volée, est-ce que ce véhicule a été expertisé ?
Non, je ne peux pas vous dire, il n'y a pas d'élément particulier sur cette voiture.
Une scène de crime qui ne parle pas des policiers et des gendarmes qui vont toutefois revoir leur certitude.
Dans le même bois, Josiane Maria avait elle aussi eu le crâne fracassé et les vêtements retirés à l'exception là encore de ses sockets. Plus mystérieux encore, les cadavres de quatre autres jeunes femmes ont été retrouvés sur ce plateau maudit entre juillet 78 et avril 86.
Lundi 28 mai 1979, une semaine après la mort de Mireille Glédine, le commissaire principal Gérard Guilpin lance un appel à témoins. Qui a vu Mireille Glédine, non loin du port de la Seine, à l'arrêt de bus étoile, vêtue d'un blue jean et d'un pull sombre ? Qui l'aurait vue sur la plage proche des Sablettes ou celle de la Vernette ? Appel qui reste sans écho. Les enquêteurs ne disposent en fait d'aucune piste sérieuse. Rien, à leurs yeux, ne permet de relier la mort violente de Mireille à celle des deux autres jeunes femmes du Bossé. 15 gendarmes organisent une battue dans le secteur aux alentours du four à chaud. Un chien pisteur à qui on a donné à flairer des vêtements de Mireille guide les enquêteurs dans un coin où une poupée gonflable et des revues porno sont retrouvées, objets saisis, mais qui n'auraient pas livré d'indices. Les enquêteurs sont d'autant plus perplexes qu'ils calquent leurs investigations sur les constatations du médecin arrivé le premier sur la scène de crime. Ce dernier, en présence des gendarmes, avait effectué le test dit de l'iris. Il avait examiné la pupille de Mireille Glédine et aussitôt conclu que celle-ci était morte 2 ou 3 heures auparavant. Les policiers doutent désormais de ses conclusions. Mireille ne serait-elle pas morte plutôt juste après sa disparition? Un meurtre le dimanche matin, tout près du circuit du Castellet où se dispute une course auto avec des centaines de spectateurs. C'est trop audacieux, trop risqué, va confirmer un enquêteur. Le corps de Mireille aurait donc été déposé dans le bois du Bossé au petit matin, enlevé par un inconnu et tué, séquestré une nuit, Pas de réponse précise. 12 décembre 1990, 8 mois après le crime, le dossier Glédine est refermé. Non-lieu. Et on retrouve dans cette heure du crime Marthe Vanni, c'est la maman de Mireille Glédine. Marthe Vanni, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Il y a ce non-lieu, le dossier se referme. 18 mois, je l'ai dit, après le crime, il arrive vite, trop vite. J'imagine pour vous que c'est un coup de massue.
Absolument, ça a été une enquête de fonctionnaire. Quoi. Je ne peux pas être indulgente, disons, pour les enquêteurs. Quand je vous dis que le commissaire principal, qui était, paraît-il, responsable de l'enquête, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, là, bon, Dieu sait que je me manifestais. Oui. Je téléphonais souvent. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez quelque chose? On me disait toujours, mais ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et puis ça s'est arrêté là.
Ce que vous dites, Marthe Vanni, et on vous comprend, c'est que l'enquête, finalement, n'a pas été vraiment très sérieuse.
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, parce que je ne veux pas être... Voilà, des fonctionnaires qui remplissent des procès-verbaux, mais qui ne s'investissent pas vraiment. Voilà. Quand j'ai mené les enquêteurs dans son studio, ils m'ont demandé une photo de Mireille. Mmh. Il y avait des photos sur le bureau. J'ai pris la photo de Mireille et je l'ai donnée à l'inspecteur pour qu'il fasse passer la photo sur le journal du lendemain. Bien sûr. Au lieu de ça, le journal du lendemain, il y avait la photo de sa copine. Je crois que ça a été l'erreur fatale, parce que si à la moindre personne l'avait vu la veille, peut-être que ça aurait aidé. Les enquêteurs ont été vraiment nuls.
Oui, c'est tout à fait possible, effectivement, avec cette erreur dans la photo, ça a sans doute peut-être empêché des témoignages, selon vous.
À l'arrêt du bus, en face, il y a des immeubles, tout près, il n'y a que la route à traverser. Quand elle attendait son bus... Il y a bien quelqu'un qui devait être aux fenêtres. Il y a des barres partout à la Seine. Il pouvait y avoir quelqu'un. Mais la photo, la photo que les gens ont vue le mardi, ce n'était pas la photo de Mireille.
Anna Cuxac, vous êtes la cousine de Mireille Glédine, rédactrice en chef adjointe du site internet Cosette. Et vous avez écrit un long article sur cette affaire. On a le sentiment que ça a été bouclé trop vite, ce dossier.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, je rajoute, aujourd'hui, ça ne se passerait peut-être pas de la même façon.
Exactement, au bout de 18 mois, le dossier est fermé. Et effectivement, on peut se réjouir qu'effectivement, aujourd'hui, on a pris conscience de ces écueils-là. Et jamais on ne s'amuserait à faire aboutir sur un non-lieu au bout de 18 mois une telle affaire. Mais le fait est que ma cousine et notre famille en ont pâti de cette fermeture de dossier au bout de 18 mois.
Oui, tout à fait. C'est beaucoup trop rapide, d'autant plus que, je l'ai dit, les constatations médico-légales, elles sont un peu légères, j'ai le sentiment. C'est la première fois que je vois juste à l'examen d'un œil qu'on donne une heure de décès. C'est sans doute un peu plus compliqué.
Je vous avoue que vous m'apprenez ce détail-là dans les recherches que j'avais effectuées. Moi, je n'étais pas tombée sur... ça apporte une dimension supplémentaire, effectivement.
Et c'est un détail qui est confirmé par les policiers de l'époque, confirmé dans la presse de l'époque. Donc, effectivement, c'est pour le moins troublant. On est allé très vite. Maître Isabelle Bernier-Voix, vous êtes l'avocate de Marthe Vanni, la maman de Mireille Glédine. En négligeant la piste du tueur en série avec ces cadavres de femmes dans ce secteur, on est peut-être passé à côté de choses très importantes.
À mon sens, c'est une évidence. Hein. Parce que dans l'entourage, j'en déduis que dans l'entourage de Mireille Glédine, personne n'était proche de l'entourage de Josiane Maria, par exemple. Puisque Josiane Maria n'habitait pas dans la région, elle était venue simplement travailler dans une boulangerie de la Ciotat, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'elle était originaire du Nord, donc voilà, il n'y avait pas de lien par rapport à l'entourage de Mireille. Donc, de toute évidence, c'est quelqu'un d'extérieur de l'entourage. Ça me paraît évident.
Dossier clos qui va être rouvert après le quatrième meurtre d'une jeune femme. Vendredi 29 octobre 1982, 3 ans après le meurtre de Mireille Glédine, un chercheur de champignons retrouve les restes d'un corps au Bossé, sur les pentes arides et rocailleuses du mont du Gros Cerveau, comme l'écrit alors le journal Nice Matin. Un quatrième cadavre de femme, donc, dans un rayon de 10 km autour du circuit auto du Castellet. Ce corps, quasiment réduit à l'état de squelette, est celui d'une jeune Allemande, Martina Kogler, 22 ans, portée disparue depuis 3 mois. Cette vendeuse, dans une grande surface de Stuttgart, avait tout plaqué en Allemagne, fiancée et famille, pour partir à l'aventure dans le sud de la France. Partie sans laisser d'adresse, un avis de recherche avait été lancé. Les légistes ne peuvent pas établir avec certitude de quoi est morte Martina Kogler, mais il ne s'agirait pas d'un accident. Son corps aurait été déposé dans cet endroit désert, uniquement fréquenté par quelques randonneurs. Le lien n'est pas fait avec les autres meurtres. L'hypothèse tout à fait envisageable d'un tueur en série n'a jamais été étudiée. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'on se retrouve avec... Aujourd'hui, on ne réagirait pas de la même manière. On essaierait de faire le lien, de voir s'il y a des similitudes entre tous ces meurtres. Ça fait quand même 4 cadavres de femmes quasiment dans le même périmètre. Ça fait beaucoup. On peut se poser des questions. Anna Cuxac, dans votre article « Cold Case, qui a tué ma cousine, Mireille Glédine hein, ?» C'est vraiment un article qui fait sensation parce qu'il fait ressortir cette affaire et on en parle aujourd'hui grâce à ce que vous avez écrit. Vous citez un autre crime, Pascal Michel. Ça, c'est plus ancien, ça vient encore après, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est la dernière morte du plateau du Castelet, comme on l'a recensé. Mais j'ai très peu d'éléments.
Il y a très peu d'éléments.
Ouais. Oui, bien sûr. Mais en fait, tout ce qu'on brasse me fait penser, et là, c'est peut-être plus la journaliste de Cosette qui vous parle, mais est-ce qu'à l'époque, on ne faisait finalement peu de cas de ces meurtres de jeunes femmes. Est-ce que c'est pas aussi, enfin, qui était un peu vagabonde, qui était un pour l'amende, qui était un peu libre pour ma cousine, enfin, qui était des jeunes filles modernes. Est-ce qu'il n'y a pas là un biais aussi, parce que la première est une prostituée également. Est-ce qu'il n'y a pas cette composante-là aussi?
Eh bien, je vous l'accorde, parce qu'effectivement, à l'époque, notamment sur Martina Kogler, on va dire, c'est une fugueuse, etc. On cherchera pas beaucoup de choses. La première, on va dire, elle était peut-être prostituée. Donc voilà, on va pas beaucoup chercher. Et puis, ces femmes libres, comme vous les appelez, ben voilà, il n'y a pas de recherches qui sont vraiment puissantes à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé, et c'est une bonne chose. Marthe Vanni, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes la maman de Mireille Glédine. La piste d'un tueur en série, est-ce que vous l'envisagez pour le meurtre de votre fille?
J'y ai pensé plus d'une fois. Mais bon, vous savez, on n'est pas dans les arcanes des tribunaux. Hein. Mmh. Ça fait le deuxième courrier que mon avocat envoie à Nanterre. Oui. Ça fait plus d'un an que j'ai essayé justement que l'enquête soit réouverte, mais ça n'a pas l'air d'être, comment dirais-je, les soucis de la justice.
Oui, mais alors ça, c'est vrai, c'est compliqué parce que c'est une très vieille affaire. Et effectivement, elle est prescrite aujourd'hui, cette affaire. Donc c'est compliqué pour la justice d'approcher ce genre de dossier. Maître Isabelle Bernier-Hervois, alors je sais que vous vous battez avec votre cliente pour que cette affaire rebondisse. Vous êtes avocate au barreau de Toulon, à l'avocate de Marthe Vanni. Question que je pose très souvent à nos invités, avocats et magistrats, est-ce qu'ils existent toujours, les scellés de cette affaire?
Je voudrais bien savoir, j'arrive pas à avoir de réponse, voilà. Parce qu'ils ont trouvé des pierres, ils ont trouvé 3 pierres avec le sang de Mireille, ça c'est une certitude. Ils ont trouvé d'autres éléments. Ils ont retrouvé des cheveux dans sa main, des éléments plastiques un peu autour d'elle. Alors, apparemment, ça serait un élément d'une voiture. Mais bon, voilà, s'il nous précise ça comme ça, mais on n'a pas d'autres éléments. Il y avait ses bijoux aussi, qui seraient susceptibles peut-être d'avoir des empreintes. Enfin bon, on sait pas, hein. Mais voilà, je sais pas si les scellés ont été conservés. J'ai interrogé le procureur de la République ici à Toulon. J'attends une réponse. Voilà.
Mais oui, parce que ça, c'est de l'archéologie judiciaire et c'est toujours très compliqué de... voilà, les magistrats sont très occupés, les avocats aussi. Il y a des affaires actuelles qu'il faut résoudre, donc c'est très compliqué de reprendre ces dossiers. Anna Cuxac, vous êtes donc la cousine de Mireille Glédine et notre invitée aujourd'hui, fil rouge, dans cette émission qui est consacrée à la mort de votre cousine. Vous avez été en contact avec l'OCRVP, hein, c'est l'office qui se charge un peu de ces dossiers de personnes disparues ou de cas non élucidés, et notamment avec son patron, Franck Donnerolle, c'est ça?
Oui, pour la rédaction de mon article, il a gentiment accepté de répondre à mes questions. Et effectivement, lorsque le Paul Cold Case du parquet de Nanterre a invité les commissariats et les gendarmeries à faire remonter des affaires, celles de ma cousine a été, donc les policiers de Toulon ont fait remonter au parquet, au Paul.
Ça c'est bien, c'est une bonne chose.
Oui, tout à fait, l'affaire de ma cousine. et néanmoins, vu qu'il y a la prescription, et comme le dit Maître Bernier-Hervois, si on ne sait pas ce que sont devenus les scellés, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Voilà.
La mère de l'étudiante ne va jamais cesser de rechercher la vérité.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Vendredi 27 janvier 2023, Maître Isabelle Bernier-Hervois, avocate de Marthe Vanni, 85 ans, la maman de Mireille Glédine, écrit au procureur de Nanterre afin que l'affaire soit confiée au pôle judiciaire des Cold Case. Malgré la prescription, l'avocate estime que des recherches peuvent être relancées et des vérifications entreprises. Dans le magazine Cosette, Franck Danerol, chef de l'Office central des violences faites aux personnes, l'OCRVP, a déclaré « Le dossier Glédine semble prescrit, mais l'intégrer à notre base de données nous permettra de, peut-être, faire le jour, un jour, le lien avec une affaire non prescrite. »
C'est vrai qu'il y a très longtemps, mais bon, j'ai eu beaucoup d'espoir, mais là, je reconnais que ça n'a pas beaucoup bougé. C'est pour ça que je frappe à toutes les portes. Je me dis que peut-être en faisant du bruit autour de son décès, peut-être que Nanterre bougera.
La voix de Marthe Vanni, la maman de Mireille Glédine, qui est également notre invitée aujourd'hui en direct dans l'heure du crime. Alors effectivement, cette question d'essayer de faire rouvrir un dossier prescrit, ça c'est très très compliqué. C'est presque un Himalaya qu'on va à gravir pour la justice. Maître Isabelle Bernier-Hervois, vous êtes avocate au barreau de Toulon, également notre invitée depuis une heure dans l'heure du crime. Avocate de Marthe Vanni, c'est la maman, on vient de l'entendre, de Mireille Glédine. L'OCRVP, alors cet office, hein, encore une fois, qui est chargé parfois des affaires non résolues, a indiqué que l'affaire même prescrite était intéressante. Ce sont les mots du patron de l'OCRVP. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ce côté-là? Est-ce que les choses bougent?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, nous, on est dans le flou complet depuis que j'ai écrit... Ben, ça fait maintenant, ça fait plus d'un an, hein, que j'ai écrit à Nanterre pour voir s'ils pouvaient un peu réouvrir le dossier. Et à chaque fois que je les relance, ils me disent oui, c'est en cours d'instruction. Donc voilà.
Est-ce que selon vous, Maître Bernier-Hervois, est-ce que selon vous, ce dossier peut être rouvert?
À mon sens, on peut le réouvrir si on arrive en plus à rapporter un caractère sériel au meurtre. D'où l'importance de savoir ce qu'il est advenu dans le dossier de Josiane Maria, principalement. Parce que si on arrive à rapporter la preuve que tous ces meurtres sont liés, ça permet de réouvrir, en tout cas de permettre au pôle de Nanterre de se saisir et peut-être de réouvrir le dossier et de faire avancer les choses. Oui.
Alors Anna Cuxac, vous êtes avec nous dans l'heure du crime, vous êtes la cousine de Mireille Glédine et c'est vous qui avez signé cet article dans Cosette, ce cold case qui a tué ma cousine Mireille Glédine. Et effectivement, le patron de l'OCRVP, Franck Danerol, qui est un policier très expérimenté, il dit quelque chose de très intéressant, il dit... peut-être que l'affaire Glédine pourra aider à élucider certains autres.
Ou l'inverse,
ça,
effectivement.
C'est quand même très frappant.
Oui, ça marche dans les deux sens, mais effectivement, on est dans une situation où il s'agit, pour réactiver les enquêtes sur l'un ou l'autre de ces meurtres, de faire le lien entre eux. Et effectivement, à ce titre, ce serait très intéressant qu'on puisse relier les affaires Glédine et Maria.
Alors c'est vous, je l'ai dit, hein, depuis le début de l'émission, qui avez fait rebondir cette histoire grâce à cet article, mais vous l'avez fait presque pour la bonne cause, parce que je suppose que c'est une affaire de famille dont vous entendez parler depuis toute petite.
Oui, évidemment, et je suis très émue quand j'écoute ma tante raconter ce que c'est. En fait, c'est le combat d'une vie, évidemment. Et elle a beau être âgée, ça reste. Elle ira jusqu'au bout de ce qu'elle peut. Et en ce sens, la publicité de cet article et en tout cas, enfin, la réactivation médiatique de cette affaire qui était complètement oubliée a permis récemment une très bonne nouvelle pour la famille, à savoir la prise de contact de la sœur de Josiane Maria, qui nous a fait parvenir un courrier nous demandant de nous mettre en relation. Donc aujourd'hui, ma tante et la sœur de Josiane Maria sont en relation et vont pouvoir peut-être avancer ensemble.
Mais ça, c'est une formidable nouvelle, parce qu'effectivement, c'est positif. On avance peut-être un peu dans ce dossier. Marthe Vanni, vous êtes la maman de Mireille Glédine avec nous. On souligne votre courage. Et c'est vrai que ça fait 45 ans que vous vous battez. Vous n'avez jamais arrêté d'avoir de l'espoir.
Ça fait 45 ans que j'attends. Je dirais pas un miracle, mais que j'attends. J'ai espoir qu'un jour je saurai ce qui a pu arriver. J'ai jamais pu imaginer qu'il est arrivé ça. Et puis surtout, avec les possibilités qu'a la science maintenant, vous voyez, elle a été tuée avec une énorme pierre. Et on a retrouvé, on a mis dans les scellés deux pierres. Est-ce que je voudrais pouvoir faire récupérer ces pierres et faire des analyses d'ADN. Voilà, ce serait mon désir. Si l'enquête redémarrait, ça serait possible, quoi. Même 45 ans après.
Vous attendez quoi aujourd'hui de la justice?
Ben, je voudrais garder espoir parce que, vous voyez, j'ai 86 ans. Je vais peut-être vivre encore quelques mois, même quelques années. Mais je garde quand même espoir que l'enquête soit réouverte. Mais c'est mon seul désir.
Vous avez un appel à témoin à faire, à formuler?
Je ne sais pas. Je voudrais bien faire un appel à témoin, mais moi, je voudrais appeler son assassin, surtout. Celui qui a tué ma fille, l'ignoble assassin qui a tué ma petite. Je voudrais qu'il meure et qu'il disparaisse à tout jamais. Ou alors qu'il se manifeste. Pourquoi pas? Je voudrais bien l'avoir en face et lui dire ce qui s'est passé, qu'il m'explique ce qui a pu se passer. Elle qui était si douce. Et qu'aimait le monde entier. Je crois que c'est pour ça qu'elle est morte. Elle aimait trop les gens.
Merci infiniment, Marthe Vanni, Anna Cuxac et maître Isabelle Bernier-Hervois d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.